Prologue. La première partie de l'histoire de l'éruption volcanique du Mauna Loa a été classée secrète quelques jours après s'être produite en 2016 dans le jardin botanique de Hilo. Elle est restée jusqu'à récemment hautement confidentielle. Chapitre 1. Hilo, Hawaï, 28 mars 2016. Rachel Cheryl, qui allait fêter ses 30 ans quelques jours plus tard, était titulaire d'un master de Stanford en biologie de la conservation et une étoile montante dans son domaine et se voyait toujours comme la plus intelligente de sa classe. De toutes les classes, d'ailleurs. Mais ce jour-là, au jardin botanique de Hilo, elle jouait le rôle de la prof remplaçante cool auprès d'un groupe d'élèves de CM2 venus du continent, des enfants agités et aux yeux grands ouverts. Tôt ce matin même, le directeur général du jardin botanique, Théo Nakamura, lui avait dit « Voyons les choses en face, Rachel. Faire visiter les jardins à ces touristes miniatures te permettra de mettre ton immaturité à profit. Vous sous-entendez que je me comporte comme une enfant de 10 ans ?»« Dans les bons jours », avait répondu Théo. Théo était l'universitaire intrépide qu'il avait engagé lors de l'ouverture du parc l'année précédente. Bien que Rachel soit, et paraisse, très jeune, elle était extrêmement douée et faisait une excellente botaniste en chef pour le parc. C'était un poste en or, et elle était passionnée. D'ailleurs, l'une des choses qu'elle préférait dans son travail était justement d'organiser des visites du parc pour les enfants. Ce matin-là, la promenade dans les jardins se déroulait en compagnie d'écoliers très chanceux, venant de familles aisées, et ayant fait le voyage depuis Convent and Stuart Hall à San Francisco. Rachel essayait de divertir et d'éduquer ses enfants sur le milieu naturel qui les entourait. S'il s'agissait bien évidemment pour elle de leur présenter un exposé sur ce qu'ils observaient, des jardins d'orchidées, des bambous à haute tige, des cocotiers, des jacquiers, des plantes comestibles comme l'arbre à pin, le coucoui et l'ananas rouge, des chutes d'eau de 30 mètres de haut, des hibiscus à foison. Elle devait aussi prendre en compte la curiosité des enfants à l'égard des deux volcans les plus proches sur les 5 que compte la grande île. Le Mauna Loa, le plus grand volcan actif du monde, et le Mauna Kea, qui n'était pas entré en éruption depuis plus de 4000 ans. Ces jeunes citadins considéraient manifestement les pics jumeaux comme le point culminant de leur visite. Le plus beau spectacle dans ce pays de cartes postales qu'était Hawaï. Quel gamin ne donnerait pas tout pour voir le Mauna Loa entrer en éruption et cracher un torrent de lave à plus de 1000 degrés? Rachel expliquait que le sol volcanique de Hawaï était l'une des raisons de la beauté du milieu naturel de l'île. À l'instar d'une présentation PowerPoint animée, elle embrassa d'un large geste le paysage autour d'eux, pour leur montrer les bienfaits résultant des éruptions passées qui avaient permis à Hawaï de cultiver des fèves produisant un café aussi délicieux que n'importe quel autre café dans le monde.
« Mais les volcans ne vont pas exploser aujourd'hui, si ?»
demanda une petite fille, ses grands yeux bruns rivés sur les pics jumeaux.
« S'ils en ont seulement l'idée, nous construirons un dôme au-dessus, comme pour les nouveaux stades de football. » On verra bien ce qu'ils en penseront la prochaine fois qu'ils essaieront de se défouler. » Pas de réponse. Rien que des grillons. Des grillons champêtres du Pacifique, pour être exact. Rachel sourit. Elle ne pouvait s'en empêcher, parfois.
« Quelle sorte de café pousse ici ?»
demanda un autre enfant, du genre bon élève.
« Starbucks, » répondit Rachel.
Cette fois, il y eut des rires.
« Bien joué, » pensa Rachel. « Je la resservirai, celle-là. Elle est bonne. »
Mais tous les enfants ne riaient pas.
« Madame Cheryl, pourquoi est-ce que cet arbre est en train de noircir ?»
demanda un garçon curieux dont les lunettes à monture métallique glissaient sur son nez. Christopher s'était éloigné du groupe et se tenait devant des banians, à une trentaine de mètres de l'autre côté de la pelouse. Dans l'instant qui suivit, ils entendirent tous ce qui ressemblait à un gros coup de tonnerre lointain.
Rachel se demanda, comme tous les nouveaux arrivants à Hawaï le faisaient systématiquement, « Est-ce qu'un gros orage est sur le point d'éclater, ou bien est-ce le début d'une éruption ?»
Alors que la plupart des élèves levaient les yeux vers le ciel, elle se précipita vers le garçon studieux à lunettes qui observait les bagnants d'un air inquiet.
« Bon, Christopher, » dit Rachel quand elle arriva près de lui, « tu sais que j'ai promis de répondre à chacune de tes questions. »
Le reste de sa phrase resta coincé dans sa gorge. Elle vit ce que Christopher voyait, et elle n'en croyait pas ses yeux. Ce n'était pas seulement que les trois bagnants les plus proches étaient devenus noirs. Rachel voyait une épaisse tache aussi sombre que de l'encre se répandre comme une marée noire, une tache terrifiante qui grimpait le long des arbres. On aurait dit une sorte de coulée de lave inversée provenant de l'un des volcans, mais la lave défiait la gravité et remettait en question tout ce que Rachel Sherrill savait sur les maladies touchant les plantes et les arbres. Peut-être n'était-elle pas la plus intelligente de sa classe, après tout.
Chapitre 2.
Merde, c'est quoi ce bordel ?
Commença Rachel, avant de se reprendre à la vue du garçon sensible de 10 ans qui se tenait juste à côté d'elle. Elle se pencha au ras du sol et vit des taches sombres suspectes au pied de l'arbre, comme des empreintes de pattes rondes d'un animal mythique. Rachel s'agenouilla et tâta le sol. L'herbe n'était pas humide. Au toucher, les brins d'herbe faisaient l'effet des poils d'une brosse métallique. Hier encore, ces traces noires n'étaient pas présentes. Elle effleura l'écorce d'un autre arbre infecté, et celle-ci se détacha du tronc, se transformant aussitôt en poussière. En retirant sa main, elle vit ce qui ressemblait à de l'encre noire sur ses doigts.
Ces arbres ont dû tomber malades,
dit-elle. C'était la meilleure explication qu'elle pouvait offrir au jeune Christopher. Elle tenta une autre blague.
« Je vais peut-être devoir tous les renvoyer de l'école aujourd'hui, pour qu'ils rentrent chez eux se reposer ?»
Le garçon ne réagit pas. Même si, techniquement, c'était encore le matin, Rachel annonça qu'ils allaient faire une pause déjeuner.
« Mais il est trop tôt pour déjeuner !»
fit remarquer la fillette aux grands yeux marrons.
« Pas à l'heure de San Francisco, »
répondit Rachel. Tandis qu'elle ramenait en vitesse les enfants vers le bâtiment principal, elle cherchait des explications à ce qu'elle venait de voir. Mais aucune n'avait de sens. Rachel n'avait jamais rien vu de semblable, ni rien lu sur ce phénomène. Ce n'était pas le fait d'insectes vampires qui pouvaient ronger les bagnants s'ils n'étaient pas surveillés, ni du Roundup, l'herbicide que les jardiniers utilisaient avec un zèle excessif sur les 30 hectares du parc qui s'étendait jusqu'à la baie de Hilo. Rachel avait toujours considéré les herbicides comme un mal nécessaire, au même titre qu'un premier rendez-vous amoureux. C'était autre chose. Quelque chose de sinistre, peut-être même de dangereux. Un mystère qu'elle devait résoudre. Une fois les enfants installés à la cafétéria, Rachel courut à son bureau. Elle fit le point avec son patron, puis passa un coup de fil à Ted Murray, un ancien petit ami de Stanford qui l'avait recommandé pour ce poste et l'avait convaincu d'accepter, et qui travaillait à présent pour le corps du génie de l'armée de terre de réserve.
« Il se pourrait qu'il se passe un truc ici, »
lui dit Rachel.
« Un truc ?»
demanda Murray.
« Mon Dieu, vous les scientifiques, vous employez vraiment des mots bizarres. »
Elle expliqua ce qu'elle avait vu, tout en sachant qu'elle parlait trop vite, trébuchant sur ses mots à mesure qu'elle les prononçait.
« Je m'en occupe, »
déclara Murray.
« J'enverrai des gens sur le terrain dès que possible. Et surtout, ne panique pas. Je suis sûr qu'il y a une explication à ce truc. »
« Ted, tu sais que je ne suis pas du genre à prendre peur. »
« À qui le dis-tu ? Je sais par expérience que c'est toi qui fais peur, généralement. »
Elle raccrocha, sachant qu'elle avait peur. La pire des peurs pour elle, ne pas savoir.